Les affaires créoles sur le chantier.
Ce sont les épices secrets, le secret du goût. Les épices secrets, le secret de la cuisine.
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en direct du chantier pour l'émission Affaires créoles, le magazine d'actualité réunionnaise.
Mesdames et messieurs, l'association CODEM de Sainte-Suzanne est heureuse de participer ce matin à l'inauguration de la fête de la vanille qui représente un moment fort historiquement pour notre commune et pour la Réunion. Notre association œuvre depuis plusieurs années maintenant à la valorisation et la transmission de notre patrimoine culturel, matériel et immatériel. Et moi, Bius, fait partie également de nos travaux.
Ce que vous entendez derrière moi, c'est la fête de la vanille au bocage à Sainte-Suzanne. Car dans cet épisode, je vais vous faire voyager dans un univers de saveurs, d'arômes et de senteurs. Je vous emmène à la découverte des épices incontournables qui font la Réunion et sa plus emblématique représentante, la vanille.
Comment on choisit une vanille? Alors très simplement, comme on choisit une jolie fille ou un joli garçon, hein. Il faut qu'elle soit belle, bien noire, moelleux, souple, sans eau.
Moi, j'aime bien jouer avec les cristaux. Voilà, la vanille cristallisée, c'est comme un vieux bouc avec un bord blanc. Donc là, c'est ça. Ça veut dire qu'elle laisse la vanille vieillir et lui, là, pousse une barbe dessus qui est blanc. Et c'est mon travail. Donc la vanille givrée, le haut de gamme.
Ce sont les épices secrets, le secret du goût, les épices secrets, le secret de la cuisine.
À La Réunion, la culture de la vanille a commencé au milieu du 19e siècle. La production augmente rapidement pour atteindre 200 tonnes de vanille noire à la fin du siècle. La première coopérative de producteurs de vanille a été créée en 1951. La vanille produite dans l'océan Indien est dénommée vanille bourbon. Pour commencer, nous retrouvons Maurice Rouloff, qui est producteur de vanille à Saint-André. Il nous fait part de son expérience et souligne l'importance de la tradition familiale dans sa production. On entendra aussi Madame Rouloff qui nous a fait visiter le domaine. Depuis combien d'années la plantation Vanille Rouloff existe-t-elle?
Moi-même j'ai repris l'exploitation depuis 1988. Avant c'était mon papa et avant c'était son papa. Mais anciennement, nous, on faisait le grand-père et le papa, lui, il plantait de la vanille, mais il revendait ça, la vanille verte. Tandis que moi, quand j'ai repris l'exploitation, j'ai fait un peu au départ la vente de vanille verte. Et en 2008, on a préparé toute la récolte et on vend ici sur le site.
Comment fait-on pousser de la vanille?
Aujourd'hui, c'est très, très compliqué à faire pousser de la vanille. Hein. Moi-même, souvent, des fois, je me pose des questions. Anciennement, planter une liane de vanille, c'est sûr à 100% qu'au bout de 4 ans, on aura la première fleur et la première gousse de vanille. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Je pense que c'est dû beaucoup aux conditions climatiques. Hein. Mais pour planter, déjà, il faut bien choisir le terrain. Il faut que le sol soit vraiment drainant. Il faut y avoir un peu de pluie quand même. Hein. C'est Saint-André, on est quand même assez servi pour la pluie.
On va donc planter la liane sur son support et après, vous savez, elle pousse vite la liane. Quand on vient de la planter, quand la liane n'a pas encore donné de gousse, la liane en été peut pousser 1 mètre en 2 mois. La vanille prend 4 ans pour avoir les premières fleurs. Pour polliniser les fleurs de vanille, personnellement chez nous, on va récupérer les épines d'un cactus que vous appelez d'ailleurs chez vous un figuier de Barbarie. On prend ça, les épines, mais on peut prendre des aiguilles à coudre aussi. Le cactus, il est naturel. La période où on pollinise, début septembre, fin décembre. Donc à cette période-là, on doit tous les jours passer dans les champs et polliniser chaque fleur ouverte. En fait, dès qu'on a fini de ramasser les gousses, tout de suite après, on commence à polliniser les fleurs. Par contre, la récolte, c'est tous les 15 jours. On n'a qu'une récolte par an. Elle va s'étaler sur quelques mois. Toutes les fleurs n'ont pas été pollinisées en même temps. Donc toutes les gousses ne vont pas mûrir en même temps. Vous savez, la fleur de vanille ne vit qu'une journée, une seule. Il ne faut pas donc rater la pollinisation. Hein. La fleur est mâle et femelle en même temps. Le travail se fait dans la même fleur. La pollinisation des fleurs de vanille, c'est le travail des femmes essentiellement. Les hommes savent faire ce travail aussi. Hein. C'est juste un travail de femmes et on appelle ces femmes les marieuses. quand c'est une grosse période de fleurs, c'est toujours tout le mois d'octobre la grosse période de fleurs. Une marieuse au mois d'octobre peut polliniser entre 1500 et 2000 fleurs par jour, mais il faut le faire que le matin, hein, parce qu'il fait trop chaud. Les après-midi, les fleurs commencent à se refermer, ce sera plus difficile. Avant d'être une seule gousse, au départ, il y avait en fait la future gousse et il y avait une fleur accrochée au bout. Donc on pollinise la fleur. S'il y a eu pollinisation au niveau de la fleur, la future gousse se transformera en gousse de vanille. Elle va descendre, grandir et grossir. La fleur sèche au bout, elle va tomber d'elle-même après. Comme la courgette, là, vous voyez. S'il n'y a pas eu pollinisation au niveau de la fleur, deux jours après son ouverture, la fleur tombe. Si la future gousse reste en haut et que la fleur tombe dessus, c'est que ce n'est pas bon. Si ça descend et que la fleur reste accrochée, c'est que c'est bon. Hein? Une fleur qu'on pollinise, bien sûr, donne une gousse, hein. Donc, si sur un ensemble de gousses, et j'avais vu un ensemble de gousses là, comme ça par exemple, s'il y a 10 gousses, eh bien, c'est qu'il y avait au départ 10 fleurs. Hein? Et elles ne vont pas s'ouvrir en même temps les fleurs, encore heureux, sinon on ne pourra pas polliniser. Hein? Sur un ensemble, il n'y aura pas plus d'une ou deux fleurs ouvertes par jour. Par contre, sur le même vanillier, il peut y avoir plusieurs bouquets. On va dire entre 2 et 20 bouquets. Chaque bouquet contient entre 3, on va dire, et 15 boutons, dont les fleurs s'ouvrent au fur et à mesure. Il faut être là au bon moment. Hein. Après pollinisation au niveau des gousses, vous savez, 2 mois plus tard, elles vont atteindre les gousses leur taille définitive. Mais on va devoir patienter encore à peu près 7 mois avant de ramasser les gousses. Hein. Au total, les gousses restent sur les vanilliers à peu près 9 mois.
Vous cultivez 2 hectares. Combien de tonnes de vanille produisez-vous par an?
Ah, ça c'est une bonne question. Sur la propriété, on va dire que ce n'est pas trop mathématique dans la vanille. Hein. On fait 2 tonnes de vanille. On peut aller jusqu'à 3 tonnes, mais après l'année suivante, on peut descendre jusqu'à 1 tonne. Ce n'est pas trop mathématique, mais on pourra dire que 2 hectares de vanille, on produit quand même 2 tonnes de vanille verte. Parce qu'après, il faut diviser par 4 ou 5 kilos pour faire la vanille séchée. Hein. Et pour l'instant, je pense que sur l'île, il doit pas avoir grand monde qui produit 2 tonnes de vanille verte. Tout simplement, c'est du bon. C'est très compliqué à faire pousser la vanille. Et puis, c'est un métier de père en fils plutôt. Si une personne y va s'installer, planter de la vanille et attendre 4 ans pour avoir la première gousse et la première fleur, c'est quand même assez long. Hein. Ouais. Donc, et puis les jeunes, bon, ne sont pas trop intéressés aussi par une culture comme ça. Je comprends tout à fait. Hein. Moi, si dans les années 88, on me posait la question de planter de la vanille ou aller travailler dans un bureau, je signe les deux mains dans un bureau. Mais moi, quand j'ai débuté aussi, je n'étais pas dans la vanille du tout au départ. Hein. Non, je ne connaissais même pas comment polliniser une fleur de vanille à 18 ans. Je travaillais dans une usine à bonbons plastique et je travaillais dans un bureau. Bon, on est tranquille, peinard. Un beau jour, le papa il me dit qu'il va prendre sa retraite. Et bon, moi, je voyais que ça lui faisait mal au cœur d'abandonner tout ça. Mais il ne voulait pas que me dire d'entrer dans la vanille. Je ne sais pas pourquoi, hein, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Moi, un beau jeu, je dis, papa, je vais reprendre l'exploitation. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Tu ne sais même pas faire une fleur de vanille. J'ai dit, mais je vais apprendre. Mais on est jeune, hein? Le matin, on entre à 8h, midi, 2h, 4h, après, c'est terminé le travail. Hein? Samedi, dimanche, pas de boulot. Hein? Quand j'ai repris l'exploitation, ah mon Dieu, la première année, le soir en dormant, là, je crois que j'ai fait une grosse bêtise de quitter et d'entrer ici. Au départ, c'est vraiment très compliqué. Hein? On se pose des questions. Mais après, avec l'habitude, quand on voit que ça marche bien, après, on oublie tout ça. Moi-même, le mot vacances n'existe pas. Hein? Depuis 88, je ne pars jamais en vacances, moi. Hein? Bon, elle, c'est pareil. Après, quand on est dedans, on ne pense plus à ça. My name is Wafs,
Mr. Classic. La vie. Dans les premiers.
On a parlé de la production de vanille, mais pas de la raison pour laquelle elle a une place si importante dans l'esprit des rayonnais. Pour mieux la comprendre, il faut connaître son histoire, et cette histoire est celle d'Almo Albius. Esclave et orphelin de naissance, il est recueilli par Féréol Bélier-Beaumont, qui l'initie à l'horticulture de l'île Bourbon, l'actuelle île de la Réunion. En 1841, à l'âge de 12 ans, il découvre le procédé de fécondation artificielle de la vanille qui a permis à la production de passer à une échelle industrielle. Noir, devenu affranchi, sa condition le prive du crédit de sa découverte. Elmont meurt dans la misère à 51 ans, abandonné, veuf et sans enfant. La Réunion abrite de nombreuses productions des pistes de grande qualité. Il n'y a pas que de la vanille, mais il y a aussi le curcuma. Pour nous en parler, j'ai rencontré Thierry Vitry, producteur de curcuma, à la Plaine des Grègues, au domaine de Picasso, situé dans les Hauts de Saint-Joseph. L'épice en poudre d'or est très utilisée dans la cuisine et même pour des pratiques médicinales. Thierry est devenu producteur car il voulait perpétuer la tradition. Écoutons-le. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Avant toute chose, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est que le curcuma ?
Ben, le curcuma est une épice presque ancestrale de la Réunion, quoi. Plus notamment sur les Hauts de Saint-Joseph à la Plaine des Grègues. Et ben, on s'en sert depuis toujours comme une épice pour égayer un peu les plats et depuis un peu de temps aussi pour le côté médicinal aussi, quoi.
Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir producteur de curcuma ?
Ben, j'ai toujours baigné dedans, je suis né dedans et du coup j'ai voulu quand même perpétuer cette tradition-là, quoi.
Depuis combien d'années le domaine de Picasso existe-t-il ?
Depuis environ une dizaine d'années à peu près, quoi.
Pourquoi ce nom, domaine de Picasso ?
C'est assez très complexe à répondre, quoi, mais il faut venir sur place pour vraiment savoir donner toutes ces explications-là, quoi.
Comment se cultive le curcuma ?
Ben, le curcuma, ben, ça se plante comme toute autre plante, mais moi je suis en production biologique, du coup il n'y a pas du tout de pesticides du tout dans mes champs et j'ai voulu aussi mécaniser un peu pour entre guillemets, moderniser un peu la plantation pour être moins contraignant physiquement, quoi.
Comment peut-on consommer le curcuma ?
Ben, sous différentes formes, soit dans les caries, sinon depuis comme je disais pour le côté médicinal aussi. Et depuis pas très longtemps aussi, pour le côté cosmétique aussi, avec de l'huile essentielle, l'hydrolat et tout aussi.
Est-ce que le curcuma est une épice emblématique de la Réunion ?
Bah, c'est une des produits phares de la Réunion pour les côtés touristes, après la vanille je pense, ou un truc comme ça, quoi. Et ouais, c'est un truc qui est très, très prisé de la Réunion et des touristes aussi, quoi.
Pourquoi appelle-t-on le curcuma le safran pays, sachant que le safran est une fleur et pas une racine ?
Nous ici, on a toujours dit, enfin le Réunionnais a toujours dit safran, quoi, mais le safran n'est pas exactement ça. On peut dire safran pays, mais le safran même, c'est le pistil d'une fleur qu'on ne retrouve pas à la Réunion. Et du coup, on n'a presque pas, enfin, on n'a pas le droit de dire safran, quoi. Si on dit safran pays, à la limite, ça passe, mais safran tout court, on n'a pas le droit de dire.
Quels sont les avantages et les inconvénients de cette épice ?
Ben, c'est un produit local. Les avantages, c'est que il craint pas trop grand-chose. Il craint pas le cyclone parce qu'il est sous la terre en général. Les inconvénients, c'est que c'est pendant 5-6 mois où il y a un gros travail à faire avec pour la récolte, la transformation et ensuite la vente après, quoi. Mais la vente, c'est un petit détail.
Quelle est la différence entre le curcuma mer et le curcuma gastronomique ?
Le curcuma mer est justement pour le côté médicinal et parce qu'il est plus riche en curcumine que le curcuma gastronomique. Et le gastronomique, c'est plus pour le côté cuisine.
Est-ce que vous produisez d'autres épices ?
Aussi un petit peu de gingembre, un petit peu de gingembre mangue aussi et de l'arrowroot.
Qu'est-ce que c'est que l'arrowroot ?
Ben, c'est un petit produit quand même intéressant aussi. On peut s'en servir pour beaucoup de choses, faire des bonbons à l'arrowroot notamment. Après, pour le côté médicinal aussi, pour les maux de ventre, pour les remontées acides, pour plein de choses. Quoi. Même pour aller, on peut remplacer ça par le smecta par exemple, pour les diarrhées et tout ça. Même pour les bébés, pour assécher la peau, pour les brûlures et tout ça, quoi.
Aviez-vous participé au Salon d'agriculture de Paris ?
Oui, cette année en 2022, oui, et en 2020 aussi, j'ai fait ce salon-là aussi, quoi.
Aviez-vous remporté un prix ?
Non, il n'y a pas de prix pour le moment sur le curcuma, quoi.
Merci de votre participation, Thierry Vitry. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée à vous aussi.
On poursuit avec Philippe Robert, porte-parole de la Maison des épices au Petit Marché de Saint-Denis. Sa politique en matière de vente d'épices, c'est qualité, qualité et qualité. Philippe nous explique quelques recettes, mettant à l'honneur les épices de la maison. Bonjour Philippe Robert.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis porte-parole de la Maison des Épices. On a aussi notre site internet, lamaisondesépices.re. Donc aussi au petit marché et le magasin. D'accord ? Vous pouvez trouver pas mal d'épices. Il y a beaucoup de références, plus de 450 références en épices. Et donc, c'est unique à La Réunion, je précise. Vous ne trouverez pas tout ça en grande surface ou dans d'autres magasins. On est aussi importateur et distributeur à La Réunion. Donc, on commercialise nos épices avec des boucheries, des particuliers aussi, et aussi des entreprises.
Depuis combien d'années la Maison des Épices existe-t-elle ?
Alors, la Maison des Épices, ça existe depuis pas mal de temps, mais on a changé de nom de domaine. Donc, avant, c'était Rouen Épices, maintenant, c'est passé à la Maison des Épices. Ça fait depuis 2008 que l'entreprise existe.
Êtes-vous vendeur d'épices seulement ou producteur d'épices également ?
La société, en fait, elle achète des épices en brut hein, et aussi on fait des mélanges à La Réunion, d'accord ? Pour éviter de trouver d'autres produits dans les épices. Par exemple, vous pouvez trouver, des bestioles à l'intérieur ou des colorants non autorisés en Europe, hein, d'accord ? Ou sinon, pas mal de choses, voilà.
Quel genre d'épices vendez-vous ?
Alors, on a beaucoup de poivre, hein, beaucoup d'épices comme le massalé, le curcuma de la plaine des Grecs, le curcuma de Petite Île. On a tous les épices du monde, donc c'est ça qui est cool.
Selon vous, quelle est l'épice phare de La Réunion ?
Pour moi, l'épice phare de La Réunion, ce serait le curcuma.
Quelle différence il y a entre épices en poudre et épices entières ?
Alors, épices en poudre, c'est une épice, par exemple, vous allez prendre la coriandre, vous allez broyer, effectuer le broyage, et ça va devenir en poudre, tout simplement.
Avec combien de fournisseurs êtes-vous en collaboration ?
La société en collaboration avec pas mal de fournisseurs. On a environ une vingtaine de fournisseurs. Donc, c'est des fournisseurs qu'on garde parce qu'ils font de la qualité. Donc, nous, on recherche de la qualité. Et les trois mots-clés, c'est qualité, qualité et qualité, tout simplement.
Quelle est l'épice la plus vendue dans votre point de vente ?
Il y a du massalé, curcuma, du poivre, tous les épices, en fait. Il y a pas mal d'épices qui sont vendues. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a un seul épice qui est plus vendu que l'autre. Ça dépend.
Au téléphone, vous me parliez de cuisine. Êtes-vous cuisinier ?
Moi, je suis cuisinier, oui.
Cela fait combien d'années ?
Je ne sais pas combien d'années, mais ça fait pas mal de temps que je cuisine. Je cuisine pratiquement tous les jours. Hein, et j'apprends aussi la cuisine avec d'autres personnes aussi qui sont très forts dans la cuisine.
Quel genre de plats préparez-vous ?
Je prépare des plats créoles, français, on va dire un peu tout. Rocaille saucisse, vous pouvez trouver, côte d'agneau, un peu tout. Je prépare tout. Donc, voilà. Avec nos épices, je prépare des plats et...
Par exemple, le rougail saucisse, vous le préparez comment ?
Le rougail saucisse, alors déjà, il faut des bonnes saucisses. Il ne faut pas acheter des saucisses en grande surface ou n'importe où, en fait. Il faut vraiment faire la route pour acheter des bonnes saucisses. Moi, je fais beaucoup de route pour acheter des produits. Par exemple, mes saucisses, je prends à Saint-Joseph, je prends aussi à Saint-Paul, à Brapanon. D'accord ? Je fais vraiment la route pour prendre mes saucisses parce que je trouve que y a un meilleur goût, c'est artisanal. Après, il faut prendre des bonnes tomates. Il ne faut pas prendre des tomates sous serre, il faut prendre des tomates des champs. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose. Les gens, ils confondent les tomates. Après, il faut du gros piment, vous avez des oignons, vous avez aussi du curcuma. Et on a un mélange aussi, rougail saucisse, à la Maison des Épices. Voilà.
Utilisez-vous de la vanille dans vos plats ?
La vanille, oui, vous pouvez utiliser la vanille. Par exemple, pour faire un porc à la vanille, par exemple, ou un poulet à la vanille, c'est possible. Hein. Donc, c'est très bon, par contre. La première fois, ça va être un peu spécial parce que vous n'êtes pas habitué. Vous savez, les Réunionnais ne sont pas habitués au poulet à la vanille ou au porc à la vanille. Il faut goûter plusieurs fois et après, franchement, c'est très bon. Franchement, moi, j'ai goûté un porc à la vanille, c'est très bon.
Comment fait-on le poulet à la vanille ?
Le poulet à la vanille, vous faites un sauté avec de la vanille, tout simplement. Vous faites, par exemple, du poulet mariné avec la poudre maïzena. Vous mettez du poivre, n'importe quel poivre, hein, poivre de compote, Madagascar, comme vous voulez. Et après, du sauce soja, sauce d'huître, sauce champignon. Il y a plein de sauces que vous mettez à l'intérieur du poulet. Et après, vous faites sauter votre poulet et après, vous mettez de la vanille tout simplement à la fin. Toujours mettre à la fin la vanille, jamais en cuisson.
Je vais peut-être exagérer, mais à La Réunion, peut-on cuisiner sans épices ?
C'est possible, mais ce sera fade. C'est-à-dire que c'est comme si vous me dites vous cuisinez, mais sans sel. C'est la même chose.
Merci de votre participation, Philippe Robert. Très bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
C'est maintenant la fin de notre magazine d'actualité réunionnaise. Merci de l'avoir suivi Retrouvez cet épisode de Zaffaires Créoles sur le chantier.radio. Bonne écoute!